Bienvenue dans le podcast Triple A. Je suis Florentin Roy, journaliste pour le média YouMatter. Et à chaque épisode, nous allons échanger avec une chercheuse ou un chercheur sur l'état de la planète, sur les grands enjeux environnementaux et sociaux, et sur les transformations nécessaires à la création d'un système plus juste et désirable. Déplacer une ville, une capitale même. Le projet semblait insensé lorsqu'il a été évoqué de déplacer la capitale de l'Indonésie, Jakarta, une mégalopole de plus de 30 millions d'habitants. En plus de la pollution omniprésente, la ville s'affaisse chaque année de 18 cm. Des millions d'habitants sont donc menacés régulièrement par des inondations dévastatrices. En France, nous n'en sommes pas à ce point-là, et pourtant nous ne sommes pas non plus épargnés par ce phénomène. Les prévisions pour la fin du siècle ne sont pas beaucoup plus réjouissantes. Dans de nombreuses régions, des villes sont déjà menacées par les inondations ou la montée des eaux. En témoignent les récentes intempéries dans les Hauts-de-France. Déplacer une ville est une décision radicale, compliquée à porter politiquement, compliquée à accepter pour les habitants des villes concernées par la montée des eaux et les autres risques climatiques. Pourtant, dans certains cas, cette décision est inévitable, surtout face au changement climatique. C'est le cas du village de Miquelon, dans l'archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon, situé à quelques kilomètres seulement du Canada. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire déplacer une ville ? Comment faire accepter aux habitants une telle décision ? Pour y répondre, AAA accueille Xenia Filipenko. Elle est géographe au Bureau de Recherche Géologique et Minière, le BRGM. Elle a reçu le prix 2023 BRGM pour sa thèse de doctorat réalisée sur l'adaptation de Saint-Pierre-et-Miquelon au changement climatique. Non loin de l'île de Terre-Neuve au Canada se trouve l'archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon. Divisé en deux îles, Saint-Pierre, la ville animée, et la grande île de Miquelon-Langlade, sa nature, ses plages et ses grandes plaines. Situé au nord de l'île de Miquelon-Langlade, le lieu qui nous intéresse pour ce podcast est le petit village de Miquelon. Composé d'environ 600 habitants, Miquelon, bordé par les eaux, se prépare à un grand déménagement, à quelques kilomètres seulement de son emplacement d'origine. Cette décision radicale, dure, est la conséquence du changement climatique. Miquelon est menacé par l'élévation du niveau des océans et l'érosion des côtes qui viennent chaque année abîmer un peu plus le village et ses habitants. Bonjour Xenia Filipenko. C'est une première en France, du moins dans notre histoire récente, qu'un village entier va être déplacé. Pourquoi Miquelon ?
Bonjour, oui, alors pourquoi Miquelon ? D'abord, parce qu'en fait, c'est l'un des villages, c'est peut-être le seul village, qui est aujourd'hui entièrement construit en zone inondable et qui n'a plus l'autorisation de construire du fait justement de cette exposition, de cette vulnérabilité à l'inondation. Donc la solution, d'une certaine manière, c'est de déplacer le village, surtout que les risques d'inondation et l'érosion des côtes vont s'accentuer avec le changement climatique.
Comment ce village est arrivé là, en fait ? Est-ce que vous pouvez me raconter un peu son histoire ?
Oui, alors en fait, Miquelon, à l'origine, c'est un village de pêcheurs. Donc on est, comme tu le disais tout à l'heure, au Canada. C'est une zone où la France a été présente pendant plusieurs siècles. Saint-Pierre-Miquelon est l'héritage, en fait, des terres que la France avait en Amérique du Nord. L'archipel est situé en fait pas très loin d'une zone très poissonneuse au large de Terre-Neuve, et il a servi de base de pêche pendant plusieurs siècles. Donc d'abord c'était des petits pêcheurs qui se sont installés là. Ensuite il y a eu des plus gros armateurs qui sont venus ça servait comme base, on va dire, de ravitaillement, et ça a continué comme ça en fait jusque très récemment, jusque dans les années 90. Donc Miquelon, en fait, c'est ça, c'est à l'origine des pêcheurs qui se sont installés là. Alors, avec une petite particularité par rapport à l'île de Saint-Pierre, c'est qu'à Miquelon, on a beaucoup de descendants d'Acadiens. Les Acadiens, justement, c'était ces Français qui vivaient au Canada et qui étaient au début des agriculteurs plutôt que des pêcheurs. Donc ils ont été chassés par les Anglais du Canada, et certains sont venus se réfugier à Saint-Pierre-Miquelon, qui est encore français à ce moment-là. Et d'agriculteurs, ils se sont transformés en pêcheurs.
Tu as réalisé justement une thèse pendant 5 ans sur l'adaptation de l'archipel de Saint-Pierre-Miquelon au changement climatique. D'où ça t'est venu, cette envie d'étudier ce territoire en particulier ?
Alors, moi, j'étais intéressée par la question d'adaptation au changement climatique, aux risques littoraux. J'étais intéressée aussi par les environnements arctiques et subarctiques. Et donc, quand je cherchais une thèse, en fait, il y a eu cet appel à thèse, finalement, à candidature sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Et ça se fait comme ça, finalement. Donc, j'ai candidaté, c'est arrivé. Et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un archipel que je savais situer, parce que j'avais toujours été intéressée par les Outre-mer, de façon générale. Et justement, je me souviens m'être fait la réflexion, même enfant, que qu'est-ce qu'il faisait là, cet archipel, alors que tous les autres étaient tropicaux et que lui, clairement, ne l'était pas. Donc voilà, j'ai trouvé ça pas mal.
Donc t'as, pendant ces 5 années, puis même en dehors de ça, t'as quand même pas mal côtoyé les Miquelonais. Est-ce que tu peux me les décrire? Qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent, quels sont leurs travail, etc.
Alors, les habitants de Saint-Pierre et Miquelon, comme je disais au début, c'était des pêcheurs. Aujourd'hui, on a des descendants de ces pêcheurs, des personnes qui ont pêché, qui ont été sur les bateaux, les morutiers, donc qui pêchaient la morue, puisque c'était la ressource principale pendant plusieurs siècles. À Miquelon, ça a été une activité, enfin, l'activité principale. Aujourd'hui, malheureusement, pour différentes raisons, d'abord parce que les stocks de morue se sont totalement effondrés, et pour des raisons géopolitiques, l'activité de pêche n'est plus l'activité principale. Donc c'est plutôt une activité qui va être de loisir. Et les habitants de Miquelon, en particulier, sont très attachés à leur territoire et aux pratiques qui vont avec. Donc ils vont pêcher, tout type de pêche, ils vont aller marcher sur leur île, ils vont en faire de la cueillette. Enfin, il y a une activité très nature, on va dire, qui ressemble d'ailleurs parfois à celle qu'on peut retrouver en Amérique du Nord avec ses grands espaces. Donc là, il n'y a pas forcément de grands espaces, mais il y a un rapport à la nature qui est assez similaire, donc qui est essentiel sur place. Leur activité aujourd'hui, ça va être donc il y a quand même une entreprise de pêche. Ils vont être aussi beaucoup dans le tertiaire, donc soit dans les services publics par exemple, dans les services. Il y a quelques agriculteurs. On parle dans tous les cas d'un petit village, donc 600 habitants. C'est un réservoir d'emploi assez petit finalement.
Est-ce que tu peux me décrire un peu comment se répartit la population? Est-ce que c'est une population plutôt âgée, jeune?
Alors, il y a de tout, j'ai envie de dire, à Miquelon. C'est une population qui commence à être vieillissante, puisque comme partout depuis la deuxième moitié du XXe siècle, on a une diminution au niveau démographique, une diminution des naissances, on a des ménages qui sont beaucoup plus petits, on en fait moins d'enfants qu'avant. Donc c'est une population qui effectivement est vieillissante, ce qui pose un énorme problème à l'échelle de l'archipel et aussi pour Miquelon. C'est comment est-ce qu'on renouvelle la population, comment est-ce qu'on arrive à attirer et garder les jeunes qui sont nés sur le territoire, comment on fait pour leur donner de l'emploi, pour leur permettre d'avoir une maison, un espace, pour vivre sur le territoire. Et aujourd'hui, c'est une problématique majeure sur l'archipel.
Et plus au niveau climatique, donc, qu'est-ce qui a changé concrètement depuis les dernières décennies à Saint-Pierre-et-Miquelon ?
Alors, pour le climat, ils font face à pas mal d'éléments. Donc moi, je me suis surtout intéressée aux impacts liés au littoral et au climat, on va dire un peu général, enfin, à la météo, quoi. Ils ont... alors, tout d'abord, en fait, on a un accroissement des tempêtes. Donc, on a une intensité du vent qui est plus forte, plus fréquente. Ça, c'est quelque chose qui a été remonté en fait par les populations locales à Saint-Pierre-Miquelon, mais aussi même au Canada, mais qui aujourd'hui n'est pas considéré comme totalement certain par les scientifiques, comme quoi ça serait lié au changement climatique. C'est-à-dire que les scientifiques, ils essayent toujours d'être assez prudents, donc par exemple dans les rapports du GIEC, et tant qu'ils ne sont pas certains à 100%, tant qu'il n'y a pas un consensus scientifique sur le fait qu'un élément est bien lié au changement climatique, ils vont dire que c'est possible que ce soit, mais on n'en est pas certain. Donc c'est le cas justement de l'intensité et de la fréquence du vent. Là-dessus, ils ne sont pas tout à fait certains au quotidien que ça soit lié, mais il y a des études récentes qui montrent que ça le serait probablement.
Parce qu'il y a une augmentation quand même des événements et de la violence.
Alors oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un archipel où il y a beaucoup de vent. Il y a toujours eu beaucoup de vent. C'est le risque qui est principal depuis le début de l'archipel. Dans ma thèse, justement, j'ai montré que dans les archives, ce qui revient le plus comme risque, c'est le vent. Les tempêtes, les coups de vent, etc. Avec un changement malgré tout ces dernières années, puisque au début, le risque, les dégâts, ils étaient envisagés en mer. Donc quand il y avait un problème sur les bateaux de pêche qui coulaient avec une perte de la pêche, mais aussi une perte évidemment humaine, des disparus, etc. Aujourd'hui, le risque, quand on parle du vent, il va être à terre. Ça veut dire que ça va être du dommage sur des maisons, sur des bateaux dans le port. Donc on passe d'une société de pêcheurs à une société plutôt de terriens, on va dire. Mais surtout, ce qui a changé, c'est les tempêtes, pour le coup. Donc, je parle vraiment, cette fois-ci, d'événements exceptionnels. Ce n'est pas le vent qu'il peut y avoir au quotidien. Là, c'est vraiment les événements exceptionnels de tempêtes. Et ça, en fait, avant, ils avaient ce qu'on appelle les tempêtes tropicales. C'est, on va dire, le dernier stade du cyclone, dont on parle assez peu. On n'est pas le cyclone, en fait, n'est plus considéré finalement comme un cyclone, mais les vents restent encore forts. Donc le cyclone va naître dans les Antilles, il va remonter le long de la côte des États-Unis et ensuite jusqu'au Canada. Au fur et à mesure, en fait, il va perdre son intensité puisque à la fois les températures de l'eau et atmosphériques se refroidissent. Donc il perd de son intensité. Il arrive sur Saint-Pierre-Miquelon dans un stade où voilà, il n'est plus dans un cyclone, juste des vents très forts. Et ça, en fait, ça a changé, puisque comme les températures océaniques et atmosphériques se réchauffent, bah, ils montent plus haut, toujours en stade de cyclone. Et ils commencent à arriver, justement, sur les îles de Saint-Pierre-Miquelon et des îles de la Madeleine. Et ça, c'est un gros changement qu'ils n'avaient pas avant, c'est un risque qu'ils n'avaient pas avant. Le deuxième élément principal avec le changement climatique, c'est la disparition du pied de glace. C'est un phénomène qui est spécifique au Canada, enfin à cette région-là. En fait, en hiver, il fait tellement froid que la côte gèle. Donc, il y a un mur de glace qui se crée au niveau des côtes. Ça protège, en fait, les côtes des vagues d'hiver qui sont souvent plus fortes, plus marquées. Donc, on a une érosion qui est finalement relativement limitée. Avec le réchauffement des températures, bah, bien sûr, les côtes ne gèlent plus, en fait. Donc, elles sont beaucoup plus vulnérables aux vagues hivernales. Et donc, l'érosion s'accroît.
Ce qui entraîne aussi notamment des problèmes de submersion.
Alors la submersion, c'est un mécanisme un petit peu différent de celui de l'érosion. L'érosion, c'est vraiment en fait la mer qui va arracher la terre, le sable, qui va le garder ensuite dans les fonds marins. Tandis que la submersion, ça va vraiment être la mer qui franchit en fait, qui va plus loin que juste arracher et qui va aller à l'intérieur des terres, donc une inondation. Et qui va être plus ou moins forte, plus ou moins étendue spatialement, plus ou moins élevée en termes de mètres ou de centimètres. Et ça, effectivement, c'est aussi quelque chose qui augmente avec les tempêtes, les marées qui sont plus élevées, et l'élévation du niveau de la mer. C'est-à-dire que forcément, mécaniquement, si on a quelques centimètres de plus en termes d'élévation du niveau de la mer, ça veut dire que la mer peut aller plus loin lorsqu'il y a des inondations.
Ouais, c'est vrai qu'on va y revenir justement... On va voir le lien entre le problème de l'élévation de la mer et justement Miquelon. Là, on va faire un petit saut en arrière dans l'histoire. En 2014, c'est la première fois qu'un président de la République, donc François Hollande à l'époque, pose un pied sur l'archipel. Et c'est pour annoncer à cette occasion une mauvaise nouvelle, entre guillemets. C'est annoncer que Miquelon est déjà vulnérable par rapport à la montée des eaux et aux tempêtes. Donc il annonce la mise en place d'un plan de prévention des risques littoraux, donc le PPRL. Concrètement, en quoi consiste le PPRL et à quoi ça sert ?
Alors, le plan de prévention des risques littoraux, en fait, c'est un outil qui existe bien avant 2010, qui consiste à établir en fait une carte des zones qui sont exposées à des risques littoraux. Ensuite, on va croiser ça avec les enjeux qui sont présents sur le territoire. Donc, s'il y a un aéroport, s'il y a des habitations, des entreprises, etc. Et on va créer comme ça une carte de risque en disant là, on est dans une zone vraiment à risque, là, on ne l'est pas. Et surtout, ça va être en fait un document prescriptif dans les documents d'urbanisme. C'est-à-dire que les documents d'urbanisme vont être obligés de prendre en compte le plan de prévention des risques littoraux pour établir le développement, on va dire, urbain du village, de la ville, etc. Et les zones qui sont considérées comme vulnérables dans le plan de prévention des risques littoraux ne sont plus ouvertes à la construction. Et éventuellement, si elles le sont, ça va être avec des aménagements spécifiques. Donc en fonction de la zone, en fonction de si on est plus ou moins exposé, soit on ne peut pas du tout construire, donc le jour où, si notre maison, par exemple, elle est dans cette zone-là, le jour où on quitte notre maison, on ne peut plus la vendre, finalement. On est obligé de la détruire ou d'en faire quelque chose d'autre. Mais elle peut être vendable, mais en tout cas, on ne pourra plus rien faire avec. Et elle perd de sa valeur. Si on est dans une zone un peu moins exposée, là, on peut toujours continuer à vivre et voilà, construire dans cette maison, mais par exemple, en s'assurant qu'il y a un étage où on peut se réfugier, en s'assurant que les pièces de vie, enfin les pièces où on dort, par exemple, ne sont pas au rez-de-chaussée, etc. Voilà. Et le plan de prévention des risques littoraux, comme le nom l'indique, c'est vraiment un outil qui sert à éviter les drames qu'on a connus lors de Xynthia. Donc ça existait déjà avant, mais ce n'était pas très appliqué. Et c'est là que Xynthia a un rôle important parce que, avec les morts qu'il y a eu à la Faute-sur-Mer à ce moment-là, l'État en fait décide d'obliger les communes qui sont exposées à mettre en place un plan de prévention des risques littoraux. Donc à l'échelle nationale, on a vraiment une sorte de coup de fouet au niveau de cette réglementation. Et ça se traduit aussi à Saint-Pierre-Miquelon, c'est-à-dire que là-bas, localement, il y a des services de l'État décentralisés. Et c'est eux qui, sous l'injonction nationale qu'il y a sur tout le territoire français, vont commencer les études pour un plan de prévention des risques littoraux. Et c'est exactement ce qui se passe lors de la visite du président François Hollande. Les services de l'État étant à ce moment-là en train de travailler sur le PPRL, le présentent à François Hollande, qui l'utilise pour, dans le contexte, on avait la COP21 qui arrivait, il l'utilise pour, d'une certaine manière, s'inscrire dans un débat sur le climat, l'écologie, l'environnement. Et on arrive à une situation dont on va parler, qui est un petit peu pas évidente localement, forcément.
Oui, c'est ça, justement. Donc ce plan pour Saint-Pierre et Miquelon, qui a été approuvé finalement en 2018, si je ne me trompe pas, empêche en fait en grande partie toute nouvelle construction en périphérie du village. Donc déjà, le village est petit, 600 habitants, mais en plus, on leur dit, à ce village-là, tu ne pourras pas te développer. On arrive à la solution, en fait, il y a une solution qui arrive, qui est évoquée, c'est de déplacer complètement la ville. Est-ce que ça ne semble pas être une décision très radicale et est-ce qu'il n'y a pas des solutions moins drastiques, finalement ?
Alors si, déplacer un village, c'est énorme, comme à la fois d'un point de vue sociétal, d'un point de vue financier, d'un point de vue de tout simplement de ce que ça représente, d'un point de vue technique, etc. C'est une décision extrêmement radicale, effectivement. Alors il y a deux solutions, évidemment, qui existent, mais le problème, c'est qu'elles sont, on va dire, temporaires. Et surtout, elles coûtent aussi de l'argent en fonction de la solution qu'on choisit. C'est une question de priorité, d'une certaine manière. On peut, par exemple, mettre des digues, on peut aider le littoral naturellement à être plus résilient aux assauts de la mer. Donc, par exemple, on va aider la dune en fait, à garder le sable et en plantant des plantes qui retiennent le sable. Voilà, il peut y avoir ce genre d'éléments-là. Mais ça reste limité à la fois dans le temps et dans l'espace. Les digues peuvent sembler plus efficaces, ce qui est le cas dans une certaine mesure, mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est que si jamais elles cassent, et c'est arrivé à la Faute-sur-Mer, par exemple, c'est pour ça qu'il y a eu des morts, si elles cassent, en fait, elles vont aggraver la submersion. Donc, on se retrouve avec un ouvrage qui, a priori, était censé protéger et qui, là, va au contraire accentuer la vulnérabilité des populations.
Parce que l'artificialisation, en fait, va empêcher l'effet tampon. Qu'est-ce qui se
passe? En fait, on a tout simplement... Il faut s'imaginer qu'on a une pression énorme en cas de tempête de la part de la mer. Donc, la mer, elle arrive et elle a rien pour, on va dire, s'échapper, pour s'étaler. Et elle fait face à un mur. Donc, c'est vraiment... Ça frappe dans le mur. Et puis, tout à coup, il y a une brèche qui s'effectue. Donc, on a un tout petit trou qui est ouvert. Et donc, la mer va s'engouffrer là-dedans. En termes de mécanique des fluides, on a énormément de puissance en fait qui va se concentrer dans un tout petit espace et donc voilà, ça aggrave la situation. Le deuxième problème des digues, c'est que ça coûte très cher, à la fois à mettre en place et à entretenir, parce que une fois que la digue est posée, on est tranquille pour un peu de temps, mais très vite elle va s'user à force d'être tapée, on va dire, par les vagues. Donc il faut l'entretenir, ça coûte cher. Et là, on arrive sur une question de moyens. C'est combien de temps est-ce qu'on accepte d'entretenir une digue qui risque de ne plus être suffisante avec l'élévation du niveau de la mer et l'aggravation des tempêtes. Donc si on est sur une énorme ville, par exemple, on est sur New York, là, la question, on va dire, ne se pose pas. On ne peut pas déplacer une ville comme New York. Donc on va protéger, on va mettre en place des solutions techniques, ingénieriales. Mais sur un village rural, finalement, on n'a pas forcément les moyens, que ce soit la commune qui n'a pas les moyens de se payer une digue et de l'entretenir, mais aussi même l'État qui, lui, doit protéger des côtes entières, des façades des façades littorales entières. Donc c'est une question de choix.
Le problème aussi avec Miquelon, c'est que la ville, au bout d'un moment, aura les pieds dans l'eau. Donc.
Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, l'archipel fait face à... Enfin, Miquelon fait face à plusieurs risques, submersion et érosion. Mais finalement, il est habitué. C'est-à-dire que c'est quelque chose... les habitants de Miquelon, ils sont habitués à des risques pareils. Ils ont toujours vécu dans un climat pareil. Alors oui, c'est plus violent, mais bon, finalement, c'est gérable. Le problème, c'est qu'avec le changement climatique, cette situation ne va pas durer. Parce que les événements vont être de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses. Ensuite, parce qu'on a l'élévation du niveau de la mer, qui va encore accentuer les événements extrêmes et qui va aussi provoquer un phénomène de submersion chronique, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à marée haute, d'abord, et puis ensuite, de façon permanente, on va avoir des toutes petites submersions, mais tout le temps dans les pieds dans l'eau. Et bah, le sel, c'est corrosif, hein, donc au bout d'un moment, les infrastructures qui ont tout le temps les pieds dans l'eau, ou de façon très fréquente, ça pose problème. Donc on pourrait surélever. Mais là, se pose la question de la résistance au vent, de plein d'autres questions. Et puis, à nouveau, surélever, oui, mais de combien ? C'est-à-dire qu'on peut surélever de 20 cm, mais est-ce qu'après, on doit relever encore depuis... Aujourd'hui, on ne sait pas de combien la mer va monter, finalement. Si elle monte que de 20 cm, oui, mais on ne sait pas un scénario vers lequel on se dirige aujourd'hui au vu de la continuation de nos activités. Donc, on verra là-dessus. Mais ce n'est pas très optimiste. Après, c'est à l'échelle de décennies et de siècles, en fait. Donc, ça ne va pas être immédiat, ça va se faire petit à petit. Mais c'est bien de planifier et d'anticiper ce genre d'événement. Surtout que l'une aussi, ce qu'on oublie, c'est que même quand on est habitué à un risque, nos sociétés ont changé. Et à Miquelon, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'avec l'avènement de la société de consommation, on a des maisons qui sont devenues de plus en plus grandes, de plus en plus confortables. Donc, c'est positif. Mais en même temps, ce sont des maisons qui sont moins résilientes au risque. L'exemple typique localement, c'est que les habitants ont creusé des caves. Alors, ça peut sembler totalement anodin, sauf que, en fait, le village de Miquelon, il est entouré par l'eau. Il y en a à l'est, à l'ouest, c'est l'océan. Il y en a au sud du village, c'est une lagune. Mais il y en a aussi en dessous du village, la nappe phréatique. Et cette nappe phréatique, elle a tendance à remonter lors d'inondations, de submersions, de tempêtes. Et puis surtout, elle est vraiment juste en dessous du village. Donc, si on creuse, au quotidien, on ne va pas être inondé. Mais dès qu'il y a un événement extrême, l'eau va remonter et on risque d'être inondé. Et ça, c'est quelque chose que les habitants, les anciens, comme ils disent, ils le savaient. Et par exemple, ils ont prévenu les jeunes qui construisaient leur maison et qui construisaient des caves. Ils leur ont dit, y a de l'eau. Ils ont quand même construit. Et aujourd'hui, voilà, ça se vérifie. Et ça, c'est une question vraiment de changement de société, finalement.
Et puis, j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait eu un premier projet de déplacer, d'offrir des terrains ou sur un autre...
Oui, en fait...
Au Cap, je crois.
Oui, c'est ça, au nord. En fait, le village est situé sur un isthme entre deux îles, avec au nord une toute petite île qui s'appelle le Cap, qui a des altitudes tout à fait suffisantes, mais aussi assez escarpées en termes de relief. Donc le relief monte très vite. Et au nord, au sud, pardon, on a l'île de la Grande Miquelon, qui a aussi des altitudes tout à fait suffisantes en termes de sécurité, on va dire, des populations, par rapport au niveau de la mer, mais avec un relief un peu plus doux. Et jusqu'ici, le village, en fait, a connu une extension au niveau urbain vers le nord, donc vers l'île, justement, du Cap. Et bien avant la question du plan de prévention des risques littoraux, bien avant la question des risques littoraux de façon générale, le village s'étendait dans cette zone-là. Et donc, quand le président a annoncé ce plan de prévention en 2014, la réflexion logique des autorités à ce moment-là, c'est de dire, de toute manière, on est en train d'étendre le village dans tous les cas vers le nord, on va continuer et puis on va ouvrir les nouvelles maisons, les nouvelles constructions, on va ouvrir l'autorisation à cet endroit-là. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui n'a pas été accepté, en fait, pour plein de raisons, mais on va peut-être détailler tout à l'heure.
Moi, j'avais compris que c'était une question de prix de terrain, déjà.
Plein de choses. Oui, alors, plein de choses. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... quand le président a annoncé ça, pour faire un peu l'historique, faut s'imaginer que c'est un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que personne n'était au courant, parce que les services de l'État, ils commençaient tout juste... Ça faisait déjà quelques années, un an ou deux, qu'ils travaillaient sur ce plan. Mais ça restait très confidentiel, très cantonné aux services techniques. Et donc, c'est annoncé d'une telle manière, un peu en annonce présidentielle, donc avec une visibilité énorme, etc., ouais. Devant une population locale qui n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Et surtout qui apprend non seulement qu'il y a un plan qui est prévu, mais que ça va les obliger, ça va leur interdire de construire.
Ouais, donc, ça a été une surprise pour tout le monde, en fait, à ce moment-là.
Ah oui, c'est, on va dire, c'est un magnifique exemple d'une erreur de communication.
Ouais. Et surtout à l'époque, la question environnementale n'était pas aussi présente peut-être au niveau médiatique
Quand même, si, ouais. Si. Alors, c'est vrai que localement, ils sont très américains, on va dire, là-dessus. Mmh. Donc, un peu moins préoccupés par ça. Mais là, c'était vraiment la question. Enfin, en fait, il y a eu à la fois un rejet, on va dire, puis une incompréhension totale de la manière dont c'était annoncé et pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient plus construire. Et puis, évidemment, en parallèle de ça, il y avait pour eux une certaine conscience, enfin, pas conscience, mais une opinion comme quoi c'était totalement exagéré et qu'ils avaient toujours vécu avec les risques. Donc, pourquoi est-ce que tout à coup, on en faisait tout un plat ? Voilà, donc ça a été un peu l'événement choc, l'événement déclencheur. Ils ont fait des manifestations pour protester contre une telle situation, sauf que bah, ils n'avaient pas le choix. C'est quelque chose qui était déjà en route et c'était une réglementation nationale. Donc ça s'est arrivé petit à petit et toujours avec ce rejet de la part de la population. Donc on parlait même pas de déplacement en ce moment-là en fait. Juste on essayait de mettre en place malgré tout cet instrument réglementaire qui est le plan de prévention des risques littoraux. La relocalisation, on en parlait un peu de façon informelle et de façon pas très optimiste sur sa réalisation. Donc moi, ça, c'est le contexte dans lequel je suis arrivée en 2018 au début de ma thèse. Donc j'ai commencé à parler avec les acteurs du territoire, ils me racontaient tout ça. Et puis pendant ma mission sur place, il y a eu deux tempêtes en novembre 2018 extrêmement fortes, plus fortes que d'habitude, et qui ont provoqué à la fois des dégâts sur les bâtiments à cause du vent, mais aussi des inondations. Donc il y a une trentaine de maisons qui ont été inondées à ce moment-là par remontée de la nappe phréatique. Ça s'est passé la nuit, donc il faut imaginer un village en pleine tempête qui est totalement coupé du reste de l'archipel et donc aussi du reste du monde et qui se retrouve à devoir gérer des dégâts sur des maisons. Par exemple, il y a une maison dont le toit et l'un des murs, ça commence à se détacher. Et puis des submersions, donc les pompiers en pleine nuit, sous un vent extrêmement fort, donc il y a une mise en danger de la personne quand même, trouvent à devoir pomper des tas de maisons, à essayer d'aider des gens. Enfin, dans une petite communauté pareille, villageoise, ça a été un événement qui a été qui a beaucoup marqué les esprits, avec aussi un désarroi à la fois des habitants, de la mer, de l'époque, des pompiers. Et ça a servi un peu d'événement bascule. Donc moi, je suis revenue 6 mois après, et là, eh ben, tous, de façon un peu surprenante, ils ont commencé à me parler de relocalisation en disant « de toute manière, on n'a pas le choix, on ne peut pas construire, on n'a pas d'avenir ». Et effectivement, ça risque, si ça se reproduit, là, ce qu'on a eu, cette tempête, si ça se reproduit souvent, c'est plus viable, donc on déménage.
Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais c'est que le village, il est quand même situé à un endroit où il y a, je crois, une route et un aéroport, et en termes de connexion avec le reste de l'île.
Oui, il est très isolé.
Qu'il y a un problème, le village est démuni, en fait.
Totalement, ils sont totalement autonomes et ils doivent faire face de résilience très, très poussée. Et ça, ils savent le faire. Je veux dire, on disait qu'ils ont l'habitude, c'est vrai, et ils savent le faire. Il n'empêche que c'est des situations qui ne sont pas évidentes, qui mettent en danger les personnes et qui, si elles se répètent, ne deviennent plus viables au regard des moyens du village. Voilà, ils sont isolés parce qu'il n'y a qu'un port, il y a un petit aéroport donc, qui ne peut accueillir que des tout petits avions de 8-9 places. Et ces avions-là, les pilotes font de leur mieux, mais parfois, ils ne peuvent pas quand même se déplacer et décoller quand il y a des vents de plus de 100 km/h.
Donc là, à partir de ces deux tempêtes, on va dire, les gens ont commencé à changer d'état d'esprit, à considérer que c'était une option viable. Toi, je sais aussi que tu as fait quelques campagnes de sensibilisation. Ça consistait en quoi ? Est-ce que tu l'as fait en parallèle de ça ? Est-ce que c'était pour convaincre les derniers qui n'étaient pas d'accord ?
Alors, les derniers, il y en a toujours qui ne sont pas d'accord. Ouais. Alors, mes campagnes de sensibilisation, ce n'était pas vraiment des campagnes de sensibilisation. Ça a été de la sensibilisation indirecte, on va dire. C'est-à-dire que moi, je suis venue avec mes méthodes d'enquête. Donc, j'allais voir les gens, je discutais avec eux. J'ai fait à la fois des entretiens, on va dire, formels, un peu plus poussés, des entretiens informels, c'est-à-dire juste une discussion comme ça en passant, et puis un questionnaire. Donc les habitants de l'archipel ont répondu soit en ligne, soit en présentiel, en face-à-face, à tout un ensemble de questions, où je leur demandais un peu quelles étaient leurs perceptions du changement climatique, quelles étaient leur acceptabilité de différentes mesures d'adaptation. Et entre autres, donc, pour Miquelon, donc je faisais par site. Et à Miquelon, ils ont choisi de façon très surprenante la relocalisation à plus de quasiment 90% de l'échantillon. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour autant, il pouvait choisir, et il le faisait, il choisissait en même temps la mise en place d'une digue. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, ça montre qu'il considérait la relocalisation finalement à un échelon temporaire plus lointain, sur le long terme, mais qu'à court terme, il fallait protéger le village. Ils n'ont pas tort, parce que les habitants, ils sont à un endroit et il faut quand même s'assurer de leur sécurité. Et le maire, par exemple, il a tout intérêt à protéger sa population parce qu'en cas de problème, c'est lui qui est responsable.
Quel est le processus maintenant pour justement développer le nouveau village? Quels lieux ont été proposés? Comment ça se passe, en fait, déplacer un village?
Alors, déjà, il faut peut-être revenir en fait à 2018. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2018 et 2024 au moment où on lance le village, parce qu'en 2018, on est tout juste en basculement de mentalité et on est passé d'un rejet à une acceptation de la relocalisation. Alors, ce qu'il faut dire déjà, c'est que cette acceptation, il y a différents degrés d'acceptation. Il peut y avoir ce qu'on appelle une acceptation passive, c'est-à-dire pas le choix, faut le faire. Et puis une acceptation active en disant on y va, on le fait et on se lance. Et en 2018, on est sur du passif, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont très, pas pessimistes, mais déçues de la situation et qui, de toute manière, se disent qu'il n'y a pas le choix, que si on veut donner un avenir au village, c'est en le déplaçant, avec en ligne de mire la question des jeunes qui ne peuvent plus construire, puisqu'il y a une forte culture de l'autoconstruction. Donc, quand on quitte la maison de ses parents, on construit sa maison. On ne va pas dans un immeuble, par exemple. Voilà, et on ne quitte la maison de ses parents que quand on crée sa famille d'une certaine manière et qu'on crée sa maison. À partir du moment où on ne peut plus construire donc, sa propre maison, ça pose problème, parce que les jeunes donc, ne peuvent plus s'installer sur le village. Et en fait, ça a été vraiment le moteur pour la population de sa mobilisation. C'est-à-dire que là, au début, on a un État qui est un peu coercitif, qui oblige la population à se poser la question de son avenir et de sa relocalisation. Et en 2018, et surtout donc à partir de 2020, on a une population qui, cette fois-ci, est moteur. Et on passe donc, d'une certaine manière, dans une adhésion un peu plus active, où la population va faire des manifestations, des lettres ouvertes, va interpeller ses représentants au niveau national en disant « on veut se déplacer et maintenant, ça va plus suffisamment vite pour nous ». Donc, on mobilise tous les acteurs et on demande qu'ils se saisissent de la question et que ce soit pas juste quelque chose dans les discours. On nous a parlé de relocalisation, on nous a imposé un document réglementaire, maintenant, on veut un projet d'avenir. Et c'est à ce moment-là que la population s'est en particulier prononcée sur le lieu où ils voulaient être déplacés. Ce qui est très intéressant parce que souvent, dans ce genre de projet, on a une autorité qui dit « on va vous déplacer à tel endroit parce que c'est plus en sécurité, etc. » Et là, en fait, au début, donc, quand la population a dit « on aimerait se déplacer », la réponse des autorités, ça a été, comme je disais tout à l'heure, on va se déplacer là où on a déjà commencé à étendre le village. Ils ont dit non, c'est pas logique, parce que l'île est toute petite, et puis le jour où on est vraiment avec de l'élévation du niveau de la mer, donc l'isthme sur lequel notre village actuel, il va être sous l'eau, et on va se retrouver totalement coupé du reste de l'archipel.
Mais parce que le nord, après, c'est la petite île, et puis après, il n'y a plus rien.
Exactement, il y a Terre-Neuve.
Ce qui pue le même pays, quoi.
Exactement. Donc, ils ont dit, ce n'est pas logique. Nous, on veut aller dans un endroit, quitte à être déplacé et isolé, on va se mettre sur la grande île de Miquelon, qui est au sud. Et ils ont donc, comme je disais, envoyé des lettres ouvertes. Quand la ministre des Outre-mer est venue sur le territoire, ils ont fait une manifestation où ils sont allés délimiter visuellement, avec des poteaux, etc., et des cordes, l'endroit où ils voulaient être relocalisés. Et là, on arrive vraiment à une population qui se saisit de cette relocalisation. Et ça, c'est ça qui, finalement, a fait qu'aujourd'hui, on en est au point où on a acté ce projet, parce que c'est devenu un projet de territoire, un projet des habitants. Ils ont élu, en 2020, leur équipe municipale avec ce projet-là en perspective. Donc, le maire et son équipe, c'est leur projet électoral. C'est de déplacer la population et d'en faire quelque chose qui soit co-construit avec cette population, et c'est ce qu'ils ont fait, en fait, entre 2020 et 2024, aujourd'hui, où vont commencer bientôt, prochainement, les nouvelles constructions. C'est vraiment tout un processus qui a été fait en collaboration avec la population et en unissant, parfois difficilement, les différents acteurs publics.
Est-ce que tu peux me dire, déjà, où c'est, où va être, par rapport à l'ancien village, la nouvelle parcelle? Et en fait, combien ça coûte aussi, un projet comme ça?
Oui, alors le nouveau village va être à quelques kilomètres de l'ancien village. Donc vraiment pas très très loin. Ce qui est intéressant, c'est que en construisant ce projet, ils se sont aperçus avec des fouilles archéologiques préventives que c'était le lieu d'un ancien village en fait. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure des ancêtres des Miquelonais. Je disais que c'était des Acadiens qui au départ étaient agriculteurs et pas pêcheurs. Et bien en fait, quand ils sont arrivés à Miquelon, ils se sont installés en bon agriculteur sur l'île qui avait le plus d'espace pour faire de l'agriculture. Le problème, c'est que les terres n'étaient pas favorables. L'agriculture ne marchait pas extrêmement bien. Ça ne pouvait pas occuper toute la population à ce moment-là. Et ils se sont convertis vers la pêche, qui était l'activité donc, principale de l'archipel. Et c'est comme ça qu'ils se sont déplacés là où est le village actuel, au plus près finalement de la mer et de leur activité professionnelle. Ça a beaucoup aidé pour l'acceptation aussi du projet, parce qu'ils sont très attachés localement à leur histoire, à leur culture, à leurs ancêtres. Et donc, se dire qu'ils retournent à un endroit où leurs ancêtres se sont installés déjà avant, ça les a aussi beaucoup aidés. Après, d'un point de vue financier, c'est une grande question, parce que c'est un projet qui coûte énormément d'argent. Alors, la première chose, c'est que l'acteur public qui est propriétaire du foncier localement, donc c'est la collectivité territoriale, on est sur un statut institutionnel d'outre-mer semi-autonome, semi-indépendant, et c'est donc la collectivité territoriale qui est en charge, qui est propriétaire du foncier et qui est en charge normalement de l'aménagement du territoire. Et elle a cédé le foncier de l'emplacement du nouveau village pour gratuitement en fait à la mairie. Ça facilite les choses pour montrer sa bonne volonté et aider ce projet-là. La mairie aujourd'hui en fait a distribué les nouvelles parcelles, les premières parcelles qui vont être construites aux habitants qui étaient prioritaires.
Donc c'est qui les personnes prioritaires ?
Alors les personnes prioritaires, en fait, ce sont celles qui avaient demandé une parcelle pour construire dans l'ancien village, mais qui n'ont pas pu à cause du plan de prévention des risques.
Et quels sont les enjeux pour ce nouveau village ? On sait que les événements climatiques vont continuer, il y aura toujours des risques peut-être grandissants au niveau climatique, au niveau économique, etc. Quels sont les enjeux globalement ?
Alors, les enjeux d'un point de vue environnemental, climatique, il reste sur un archipel touché par les événements que j'ai cités tout à l'heure. Donc, ça va être surtout pour eux maintenant les tempêtes, parce que le nouveau village va être en hauteur. Il ne va plus du tout être au ras de l'eau. Donc, les risques littoraux vont plus se poser, en fait. Par contre, les tempêtes, ça sera toujours un risque d'actualité. Après, d'un point de vue vraiment des enjeux, l'enjeu, ça va être déjà, d'un point de vue environnemental, de construire un village sans trop, on va dire, abîmer l'environnement dans lequel il s'insère. Déjà, il va y avoir une perte environnementale énorme parce que, en construisant un endroit, on détruit des environnements naturels, auxquels d'ailleurs les habitants sont très attachés. Donc, c'est pour certains une perte difficile à accepter. Voilà, c'est déjà un premier point, c'est cet impact environnemental. Le deuxième, ça va être le dynamisme économique, puisque aussi ce qu'ils espèrent et ce qui va être un enjeu majeur, ça va être de garder un dynamisme économique local en lien avec l'ancien village et puis à terme uniquement sur le nouveau. Donc, quelles activités, qu'est-ce qui va être déplacé, comment, etc. C'est tout un élément. Il parlait à un moment donné également d'en faire un éco-village, un village exemplaire. Donc, ils sont encore complètement aujourd'hui dans le projet finalement de village. Donc, on verra comment ça se poursuit. Et finalement, aujourd'hui, c'est ça l'enjeu majeur. C'est-à-dire qu'ils ont lancé le projet, mais l'enjeu, ça va être de le poursuivre. Et de le poursuivre non pas sur un an ou deux, mais sur plusieurs décennies, puisque c'est un projet qui s'inscrit dans cette temporalité-là. Et il y a plein d'éléments qui sont inconnus. Ça va être le portage financier, à quel point est-ce que l'État va continuer à soutenir, qui ils vont pouvoir solliciter. Il y a l'inconnu de politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une équipe qui en a fait son projet électoral pour ses administrés, mais si l'équipe change, est-ce que l'équipe prochaine va poursuivre dans la même ampleur, avec le même dynamisme ? Il y a la question aussi tout simplement du leader politique, parce qu'aujourd'hui, le maire aujourd'hui est très, très investi sur ce sujet-là. Si c'est un autre maire, est-ce qu'il va être autant suivi ? Donc, il y a une question de personnalité aussi. Voilà, il y a plein d'inconnus. Est-ce que un autre élément, c'est l'évolution des perceptions ? C'est-à-dire qu'on parlait d'acceptation du village, sauf que cette acceptation, elle peut reculer. Tout à coup, pour différentes raisons, soit parce que, par exemple, il n'y a plus d'événements extrêmes pendant plusieurs décennies, plusieurs années. Ça, ça peut typiquement favoriser un effet de confiance. Donc les gens se disent « Oh, en fait, c'était juste à un moment donné, en fait, ça va, etc. » Et puis après, ça revient, mais encore plus fort. Donc il y a plein d'inconnus, finalement. Et tout le défi, ça va être de maintenir un tel projet dans le temps.
Ouais, donc pour le moment, ce qu'on va faire de l'ancien village, c'est pas vraiment une question.
Alors si, il l'aborde. C'est-à-dire que par exemple, il y a une question de quelles infrastructures on va déplacer, lesquelles en premier. Par exemple, il y a l'église du village qui a été construite donc par les ancêtres acadiens justement et qui est un monument culturel extrêmement précieux pour les habitants. Ben, ils savent que cette infrastructure-là, l'église, ça va être déplacée. Elle va être soit démontée, remontée, soit comme parfois ça se fait au Québec. Canada, par exemple, aux îles de la Madeleine, parfois, en fait, ils prennent la maison, ils la mettent sur roulette, quoi, et ils la déplacent jusqu'au nouvel endroit où elle sera implantée. Donc si, c'est en cours de réflexion, hein, bien sûr, sauf que quand on se situe sur un projet comme ça, qui est à l'échelle de décennies, bien sûr, on ne peut pas tout prévoir, et il y a tout simplement des choses pour lesquelles il y a tellement d'incertitudes ou de manque de connaissances que, voilà, on ne peut pas prendre de décision immédiate.
Donc là, on en a parlé de Miquelon tout le long du podcast. On a l'impression que c'est un sujet qui est très précis, quand même loin de la métropole. Mais pourtant, c'est un laboratoire, en fait, finalement, d'expérience, Miquelon.
Ah, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation de Miquelon et son projet de relocalisation, c'est quelque chose qui est extrêmement suivi à tous les niveaux de l'État, également par d'autres collectivités, par énormément de monde, parce que c'est un exemple de planification, en fait, de relocalisation. Et que tout le monde se demande de comment ça va se faire. Donc en fait, ça va vraiment être un exemple de comment l'État se positionne, quel portage financier, quelles conséquences légales, juridiques, comment ça se passe avec par rapport à la population. Comment est-ce qu'on fait pour qu'elle adhère? Comment est-ce qu'on la fait participer? Parce que la participation, c'est aussi tout un enjeu pas évident. Donc c'est tout à fait quelque chose qui est suivi et qui va devoir être... Enfin, ce genre de projets vont devoir être menés également en métropole. L'exemple le plus frappant, c'est qu'en 2021, on a eu la loi Climat Résilience qui a... Donc c'est dans la loi, en fait, qui a ouvert... Qui a fait une liste des communes qui vont devoir construire un projet de relocalisation. Donc là, c'est particulièrement... C'est des communes plutôt soumises au risque d'érosion, donc avec leur trait de côte, en fait, qui s'en va et qui met en danger des bâtiments qui sont situés le long de la côte.
Est-ce que tu as des noms de communes comme ça?
Un exemple, c'est à Soulac, en Nouvelle-Aquitaine. On a un hôtel comme ça qui était plusieurs dizaines, centaines de mètres de la mer et qui aujourd'hui est en plein, en front de mer, en fait, mais complètement, et qui a été condamné. Il y a des immeubles juste à côté aussi. Enfin, voilà, c'est... On a typiquement ce genre d'éléments, mais il y a plein d'autres communes. On peut, pareil, en Nouvelle-Aquitaine, penser à Lacanau, où ça va être aussi une problématique. On a les Sables d'Olonne, on a plein d'endroits sur toutes les façades littorales métropolitaines et dans les Outre-mer également.
Est-ce que tu as eu des échos? Est-ce que ça commence à bouger dans ces endroits-là
ou... Alors, ça dépend. Ça dépend vraiment. On a par exemple, à Lacanau, ça fait longtemps qu'on parle d'un projet de relocalisation, mais qu'il y a beaucoup de freins, ne serait-ce que par l'équipe municipale qui préfère protéger avec une digue plutôt que de relocaliser, parce que tout simplement, comme on le disait, c'est un énorme projet, c'est pas du tout évident. Il y a aussi cette impression que la digue va être moins chère qu'une relocalisation, ce qui n'est pas totalement faux. Mais voilà, après, c'est une question de quel point, quel argent on met et jusqu'à quand on arrivera à protéger des populations.
Ça, les coûts de l'inaction est quand même important aussi.
Exactement. Et puis, au début, on a l'impression qu'on protège, mais le jour où on ne protège plus, les dommages deviennent beaucoup plus importants que l'argent qu'on aurait pu mettre dans une relocalisation, finalement.
Donc là, tu viens de conclure un peu le chapitre « Miquelon », entre guillemets, avec la fin de ta thèse, etc. Est-ce que tu as d'autres projets là qui arrivent?
Oui. Alors là, moi, je suis en post-doctorat. Je travaille. Alors, je fais un pas de côté. C'est toujours important, après une thèse, de faire un petit pas de côté, quitte à revenir ensuite, mais justement avec d'autres terrains, d'autres regards, d'autres éléments. Moi, je m'intéresse toujours aux questions d'élévation du niveau de la mer. Cette fois-ci, plutôt avec un prisme d'interface science-société, c'est-à-dire que j'essaie de comprendre comment est-ce que les scientifiques peuvent produire une science qui soit utile au territoire concernant l'élévation du niveau de la mer. Parce qu'on, par exemple, on produit des projections d'élévation du niveau de la mer, mais ce n'est pas toujours compréhensible, c'est pas toujours, voilà, y a plein d'éléments qui ne sont pas forcément adaptés. Et donc voilà, moi je m'intéresse à ça en sélectionnant trois terrains d'études, donc en France, aux Pays-Bas et au Groenland. Et puis après, pour la suite, j'espère pouvoir... Normalement, je devrais pouvoir continuer sur aussi l'archipel de Saint-Pierre-Miquelon. Et puis, je continue à suivre ce qui se passe à Miquelon, parce que c'est d'un point de vue de la recherche sur la relocalisation et les risques littoraux, c'est très intéressant.
Et pour en ouverture, est-ce que tu as des livres, des films, des travaux de collègues peut-être qui t'ont marqué
Alors, dans les films, plutôt si on reste sur Miquelon, moi, ce que je conseillerais, ce serait d'aller voir. Il y a un film qui a été fait en collaboration avec un cabinet d'architectes et d'aménagement qui travaille justement sur la relocalisation du village. Et ils ont fait un film documentaire sur ce projet-là, où ils ont interrogé énormément de monde, des habitants, mais aussi des enfants, en considérant que les enfants, par exemple, c'est l'avenir du village. Donc, ils ont leur mot à dire, finalement. Et c'est un film qui est une très bonne introduction, finalement, à la problématique qui se passe à Miquelon, à la manière dont ils gèrent le sujet. Et puis, c'est très beau. Il y a des très beaux paysages. Donc, voilà, pourquoi pas. Et puis après, en ce moment, moi, dans les choses qui me marquent, il y a tous les travaux de Jean Mallory sur le Groenland... Des éléments que j'aime beaucoup parce qu'on est en prisme avec la population et on recherche vraiment à prendre en compte cette population et pas à faire un projet et un élément malgré elle. Et je trouve que ça, c'est essentiel quand on fait de la recherche.
Eh bien, merci pour cet échange, Xenia Filipenko.
Merci.
Merci d'avoir écouté le podcast AAA du Media You Matter. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, et à vous inscrire à notre newsletter afin de suivre l'actualité sur les enjeux environnementaux et sociaux.